Et je passe la parole tout de suite à Didier Sicard.
Bien, je suis très sensible à l'invitation de Catherine Dolto pour participer à ce centenaire, parce que je crois que nous ne sommes pas dans une situation neutre, mais comme le disait Gérard Guiraud dans les dernières minutes de son intervention, il y a un étrange rapport entre les institutions et la psychanalyse. Je ne peux en apporter que pour preuve mon impuissance à introduire au sein du Comité consultatif national d'éthique, depuis son existence, qui a maintenant 25 ans, une seule fois une parole de psychanalyse considérée toujours comme une parole étrangère, voire impie. Et le titre de cette conférence, de la traque à la trappe, tente de restituer, non pas le combat, mais de porter un regard sur ce qu'est actuellement l'évolution de notre société face au dépistage. En effet, prédire le futur pour l'empêcher d'advenir peut sembler le comble de la prévention. Rompre l'enchaînement inéluctable du destin, empêcher un événement de survenir quand la certitude d'une prédiction y installe ses filets, place, et ce n'est pas tout à fait étranger à mon propos, apparemment la médecine en situation de pouvoir. Pouvoir redoutable du devin qui retrouve des arguments scientifiques ou réputés tels à la prédestination. Comme si la société humaine substituait de plus en plus les gènes ou l'observation d'un comportement aux viscères d'oiseaux pour dire l'avenir, avec la même foi, sinon la même confiance. La seule différence, mais elle est effectivement de taille, est que le chiromancien ne peut jamais s'appuyer sur des preuves, et que la médecine, elle, peut toujours revendiquer de fait qu'elle s'appuie sur quelques faits simples, à l'enchaînement inéluctable, que constituent effectivement quelques maladies monogéniques à la survenue programmée. Mais même si cette inéluctabilité reste marginale et que le vivant est tout sauf programmé comme un ordinateur, le paradigme de la prédiction comme peu à peu extensif au cours du temps s'inscrit dans l'imaginaire contemporain. Si l'on peut prédire le temps de ce dimanche 14 décembre ou à la rigueur celui de demain matin, il est évident que le progrès scientifique un jour pourrait nous permettre de prédire celui de la semaine prochaine. Avec la même naïveté surprenante, médecine et société concourent à cette utopie. Ce ne serait pas très grave si plusieurs conséquences d'ordre éthique, et c'est le sujet de ce matin, ne s'en suivaient. La première, c'est la traque. La traque, la plus grande illusion ou désillusion, selon le point de vue du décryptage du génome depuis quelques années, est le sentiment donné à l'humanité de pouvoir substituer des séquences génétiques aux mares de café. Identifier des gènes est en effet beaucoup plus tentant que d'identifier des facteurs de survenue toujours très complexes. La première attitude, en effet, identifier des gènes, repose sur une modélisation simple, fascinante pour l'étudiant en médecine. La deuxième, identifier des facteurs de survenue, repose sur une interrogation épistémologique indéfiniment renouvelée, éternelle, sur le rapport toujours ambivalent entre soi et son environnement, et justement sur les capacités infinies d'adaptation dans cette dynamique du désir dont les premiers intervenants parlaient ce matin. Chercher un gène responsable, un bouc émissaire, dirait Girard, est beaucoup plus rassurant que de s'interroger toujours sur l'extraordinaire complexité du rapport du vivant au monde, et en particulier à son entourage familial ou amical. C'est ainsi que, peu à peu, dans notre culture médicale, le dépistage s'est introduit dans notre imaginaire commun, certes parfois pour le bien. Je pense cancer du sein ou cancer du côlon, du diabète, de l'hypertension, mais c'est introduit pour des finalités qui sont bien peu interrogées. La traque de quelques maladies rares néonatales, dont la France a probablement le monopole au monde. Nous sommes le pays le plus dépistant au monde. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a aucun pays qui nous concurrence, est en effet quelquefois un bienfait pour quelques maladies rares comme la phénylcétonurie ou l'hypothyroïdie où on va empêcher la survenue d'un drame de l'existence. Mais son extension, qui est tout sauf symbolique, à des maladies sans espoir thérapeutique ou à thérapeutique décalée dans le temps, introduit peu à peu dans l'imaginaire commun que le dépistage doit étendre ses filets toujours de façon plus large. Et les gènes de prédisposition s'invitent au banquet du dépistage, alors prédisposition au cancer, dont on voudrait maintenant faire un dépistage même préimplantatoire, dépistage à l'hypertension artérielle pulmonaire primitive, bref, à des maladies extrêmement rares qui finissent par s'inviter au débat. Mais est-il sans conséquence pour l'enfant et sa famille d'entendre un diagnostic présomptif de surdité, de mucoviscidose, avec ses faux positifs qui peuvent atteindre quelquefois, pour la surdité, 90%. À un tel moment de la vie, c'est-à-dire le premier jour de la naissance, sans conséquence autre que l'attente angoissée d'une inscription de cette pathologie dans le réel. Traquer le gène de la surdité pour empêcher la naissance devient apparemment un enjeu de santé publique. Le sourd n'a plus droit à l'existence. Et repérer dans certaines familles la présence de certains gènes qui chaque année s'accumulent, qui seraient liés à l'autisme, constitue un autre versant de cette médecine prédictive mentale, tout à fait indifférente au vécu familial de cette intrusion génétique et à la complexité des états autistes qui ne relèvent évidemment jamais et qui ne relèveront jamais de la simplicité évidente causale d'un seul gène. Alors que tel ou tel terrain génétique participe ou soit favorable à cet état, personne n'en disconvient, mais passer d'une information médicale, concrète, qui se revêt d'un caractère scientifique binaire, oui ou non, pour en faire un manteau illusoire de protection, est pour le moins troublant, pour ne pas dire choquant. En effet, de la traque à la trappe, il n'y a qu'un pas. Étiqueté comme enfant à risque, éventuellement à 10%, si celui chez lequel un gène anormal lié à l'autisme est présent est soumis à un traitement préventif, c'est alors peut-être, comme le dit Bertrand Jordan, faire en sorte qu'il le devienne. Prédire, c'est, qu'on le veuille ou non, non pas libérer, mais enfermer. Et quand cette prédiction s'étend à la sphère mentale, elle peut devenir dévastatrice. Le fameux rapport de l'INSERM, dont je crois que vous avez parlé hier, sur la prédiction du risque du comportement délinquant à partir du repérage précoce chez l'enfant de moins de 3 ans, est à mon sens une excellente illustration de notre société médicale contemporaine, car il offre à la société l'illusion d'une caution scientifique, du transfert, du couple, prédiction-prévention, pour l'enfant, qui paraît effectivement, personne ne peut être contre, sur le couple prédiction-prévention pour la société. Comment se protéger de l'enfant plutôt que de protéger l'enfant? Et l'articulation trouble du comportement délinquance future, ces deux concepts, finit par privilégier la coercition au détriment de l'accompagnement. Car une prédiction ne prédit pas seulement le futur, elle le fait advenir. Et l'enfant se modèle plus sur ce qu'on lui prédit que sur ce qu'il est. D'où la responsabilité majeure de ce qu'on lui dit, d'où le danger du dressage, d'où le danger peut-être même qui va revenir des maisons de redressement qui nous paraissaient appartenir à une autre humanité, qui vont faire de cet être non pas un être libéré mais contraint à la réduction de ses possibilités de plus en plus grandes. Ce qui devrait alors être évident, c'est-à-dire l'écoute de sa parole, de ses tourments, de ses ambivalences, de ses contradictions, de ses faiblesses, va substituer une norme médicale, sociale, environnementale, voire politique, quelquefois bien simpliste. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus simple. Il est beaucoup plus simple d'agir de l'extérieur sur un être, de l'identifier avec telle ou telle caractéristique, plutôt que de lui donner les capacités d'agir sur le monde. Et le marché du dépistage l'a parfaitement bien compris, parce que sous couvert de prévention, il propose ses services qui vont rapporter, et dans un monde dominé par l'économie, on voit très très bien la tentation. C'est pas tellement, c'est d'ailleurs même, je pense, le marché du futur, c'est même un marché qui est porteur, parce que sans fin, pour 1500 euros, on pourra avoir le dépistage de 1500 gènes de prédisposition. Et la prédiction l'emportera alors toujours sur la protection. Parce que la prédiction, elle est quantifiable, elle est évaluable. On voit très bien d'ailleurs le désastre d'une société qui passe son temps à vouloir évaluer, donnez-moi des chiffres, donnez-moi des preuves. L'autre ne l'est pas et nécessite une réflexion humble, pluridisciplinaire. Et le sommet de la non-pensée est l'intrusion depuis quelques années dans notre Constitution du principe de précaution, parce que mieux vaut écarter que prendre en charge. D'autant que les fichiers des données, leur stockage de plus en plus important, l'illusion d'une biotech informative inscrivent l'humain dans un réseau code-barre aussi réducteur que déshumanisant. Entendons-nous bien, je ne suis pas là pour faire une dénonciation du progrès de la médecine, participer le progrès de la génétique, la recherche sur tel ou tel facteur de risque, la non-désinvolture sur l'acquisition de telle ou telle connaissance. Simplement, le passage d'une connaissance scientifique à son application humaine simpliste transforme nécessairement la culture d'une humanité accueillante à la diversité de l'autre en un repérage orienté des personnes qui sont autres pour s'en protéger ou s'en débarrasser. Nous ne sommes pas innocemment une société qui exclut. Nous sommes une société qui nous débarrassons de ceux qui nous dérangent. Et le message de Françoise Dolto que j'ai eu là, l'immense plaisir de partager un repas avec elle dans les années 80, pour moi c'est tellement présent ces quelques heures passées avec elle. Son message était à mon sens très précurseur de cette évolution, et je comprends son inquiétude, son angoisse, parce que si elle revenait en 2008, elle serait surprise de voir que l'évolution a été totalement opposée à ce qu'elle proposait. En effet, écouter l'enfant, l'accueillir dans son infinie spécificité, lui venir en aide, faire prendre conscience à la société entière de la vulnérabilité de cet enfant plutôt que le danger que la société court avec la présence de cet enfant, lui faire prendre conscience de sa richesse, reste étrangement présent, porteur d'une espérance dans l'homme. Au fond, comme si le désenchantement contemporain était à l'opposé de son message. Le message qu'est actuellement le message des biopuces, du redressement mental conditionné avec des psychothérapies extraordinairement réactives, de dressage qui me paraissent être à l'opposé de ce qu'est un être humain, mais ce message est infiniment plus séducteur pour une société qui ne supporte plus l'inconnu, qui ne supporte plus l'incertitude d'un risque, qui ne supporte plus au fond le jeu au prix d'une abdication de sa liberté. Car en fait, peut-être que notre société pense que faire advenir un jeu est probablement devenu insupportable. Je terminerai par une phrase de Maurice Blanchot qui, je ne sais pas si elle s'inscrit dans cette réflexion d'aujourd'hui, mais me paraît très, très juste. Cette recherche ouverte, écrivait Maurice Blanchot, où trouver, c'est montrer des traces et non inventer des preuves. Merci.